VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du Monde Aujourd'hui du jeudi 28 avril 2016. Avec vous, en direct de Washington, Jean-Roger Bion et Anastasie Tudiech. Tout de suite, les titres.
Disparition de Papa Wemba, la dépouille de l'artiste est attendue aujourd'hui à Kinshasa, alors que le pays se prépare à lui rendre un hommage national sur plusieurs jours.
Un attentat suicide dans l'ouest de la Turquie fait 10 blessés et tue la kamikaze.
Jacob Zuma l'a affirmé haut et fort, il ne démissionnera pas.
Primaire républicaine, Ted Cruz annonce Carly Fiorina comme colistière.
L'Autriche crée un état d'urgence migratoire.
Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec l'économie et le sport, mais d'abord, c'est le journal.
Les obsèques officielles de l'artiste musicien Papa Wemba débutent lundi prochain à Kinshasa, mais le corps arrive ce jeudi d'Abidjan et sera déposé à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture hier à Kinshasa. Baudouin Banza Mukai donne le programme de l'hommage au micro de Thierry Kabundi de notre radio partenaire Top Congo.
Seront à l'aéroport les membres du gouvernement, les membres de différentes institutions et évidemment la population, les mélomanes, pour accueillir avec dignité notre illustre Dekouyous. De l'aéroport de Ndjidi, on va déposer le corps à la morgue de l'hôpital cinquantenaire. On va lever le corps officiellement lundi à 11h. On ira au stade des Martyrs. Toute la journée de lundi sera consacrée aux artistes, aux cinéastes, aux peintres, à beaucoup d'associations auxquelles Papa Wemba a appartenu. Les gens ont l'occasion de rendre hommage à leur illustre disparu. Mais mardi, officiellement, les officiels viennent pour rendre le dernier hommage et vers 13h, on ira l'enterrer.
Baudouin Banza Mukai, le ministre de la Culture de la République démocratique du Congo.
Et ajoutons Jean-Roger qu'hier soir, le cercueil de Papa Wemba est apparu sous les applaudissements lors d'une cérémonie hommage à Abidjan, la capitale ivoirienne, en présence de l'ancien président de la République Henri Konan Bédié et du premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan, entouré de nombreux membres de son gouvernement. La veuve du chanteur, affectueusement surnommée Maman Amazone, très éprouvée, était soutenue par ses proches et de nombreux anonymes, parmi lesquels des Congolais installés à Abidjan. Un artiste ne meurt pas, un artiste meurt pour être encore plus grand. Papa Wemba est mort, Papa Wemba mort est désormais plus grand que vivant. C'est ce qu'a déclaré le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. Papa Wemba est décédé à 66 ans dans la nuit de samedi à dimanche après un malaise sur scène à Abidjan où il participait au festival d'Anoumabo, quartier populaire d'Abidjan, qui a vu naître Magic System, groupe star de la musique ivoirienne.
Au Soudan, un étudiant a été tué hier au cours d'une manifestation à Omdurman lors d'affrontements avec les forces de sécurité. Mélie Segel.
C'est devant l'université d'Arlia que les violences ont éclaté. Des manifestants réclamaient la libération d'étudiants arrêtés lors de précédentes manifestations dans plusieurs universités du pays. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Selon un médecin, un étudiant a été tué, mais les circonstances de sa mort sont encore inconnues. Par la suite, des centaines d'étudiants ont porté le corps de la victime, enveloppé d'un linceul blanc, jusqu'à son domicile dans un quartier pauvre d'Omdurman. La police et des officiers en civil étaient déployés le long du cortège funèbre. Le campus de l'université de Khartoum a connu également quelques remous la veille. La police a dispersé de manière musclée les étudiants qui disaient protester contre un projet de vente de bâtiments appartenant à leur université. Le gouvernement soudanais a rejeté de telles allégations.
Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a vivement condamné le nombre croissant d'attaques contre des hauts responsables au Burundi. Les précisions tout de suite de Nanit Talani.
Le responsable onusien cite notamment l'assassinat du brigadier général Athanase Kararouza et de sa femme lundi dernier, ainsi que la tentative d'assassinat contre le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, Martin Niviabondi, le 24 avril. Zeid Raad al-Hussein estime que ces violences doivent faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme et que leurs auteurs doivent être arrêtés et traduits en justice. Selon l'ONU, 31 personnes ont été tuées au cours d'attaques en avril. La grande majorité de ces attaques a été menée par des hommes armés non identifiés. Le haut commissaire aux droits de l'homme dit craindre que le nombre croissant d'assassinats ciblés n'aboutisse à une aggravation de la spirale de violence. Il a appelé toutes les parties à prendre part au dialogue prévu lundi à Arusha en Tanzanie afin de trouver une solution durable à la crise burundaise.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a écarté hier toute idée de démission alors que des manifestants dans les principales villes du pays réclamaient son départ. Chérubin Dorsil.
À Johannesburg, au Cap et à Durban, des centaines de personnes se sont rassemblées à l'appel de l'organisation de la société civile pour réclamer sa démission. Le changement doit arriver dans le respect de nos institutions démocratiques, a lancé Jacob Zuma devant des milliers de supporters à Guyeni, dans le nord du pays. Nous avons travaillé dur pour construire ce pays. Il ne peut pas être détruit par des anarchistes, a-t-il ajouté, en référence aux menaces de recours à la violence lancées par Julius Malema, le bouillant transfuge de l'ANC. À 3 ans de la fin de son second mandat, Jacob Zuma est au cœur de plusieurs scandales. Fin mars, la justice a jugé qu'il a violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros utilisés pour rénover sa résidence privée. Les élections municipales prévues le 3 août seront un test pour l'ANC et le président sud-africain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, un attentat suicide s'est produit hier sur un site touristique de la ville de Bursa, dans le nord-ouest de la Turquie, tuant la kamikaze âgée de 25 ans et blessant au moins 10 personnes, ont rapporté les chaînes de télévision. L'attentat s'est produit aux abords de la grande mosquée Dulukami, important symbole de cette ville selon la chaîne d'information CNN turque. Un autre attentat suicide survenu à la mi-mars sur une artère commerçante du cœur d'Istanbul a tué 4 touristes étrangers, dont 3 citoyens israéliens. Cette attaque a été attribuée par le gouvernement turc à l'État islamique. Le groupe est soupçonné d'avoir commis plusieurs attentats sur le sol turc depuis l'été. Le plus meurtrier d'entre eux, perpétré par 2 kamikazes, le 10 octobre, avait tué 103 personnes qui participaient à une manifestation pro-kurde à Ankara.
L'Autriche crée un état d'urgence migratoire. Le Parlement du pays a adopté hier une loi qui prévoit la possibilité de décréter ce dispositif qui supprime quasiment le droit d'asile sur fond de montée de l'extrême droite. Élaborée depuis plusieurs mois et décriée par des ONG et aussi une partie de l'opposition, cette loi, l'une des plus restrictives d'Europe, qui n'a d'équivalent qu'en Hongrie, permettra dans certaines circonstances de bloquer les migrants aux frontières sans même leur accorder la possibilité de formuler une demande d'asile. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, a immédiatement condamné le texte, soulignant notamment que les demandeurs d'asile, même venant de régions en guerre, n'auront plus la possibilité de bénéficier de l'asile en Autriche si l'état d'urgence est proclamé. « Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde », a expliqué le nouveau ministre de l'Intérieur, Wolfgang Sobotka, assurant que le gouvernement n'agissait pas par plaisir, mais parce que d'autres pays ne font pas leur travail en matière de contrôle des migrants.
Ici aux États-Unis, à 6 semaines de la fin des primaires républicaines, les candidats à l'investiture présidentielle se préparent pour mardi prochain dans l'État de l'Indiana. Ce rendez-vous sera déterminant. L'investiture se jouera à quelques délégués près. Pour l'instant, Donald Trump a une légère avance dans les quelques sondages réalisés dans l'État. Et le républicain Ted Cruz a surpris en annonçant d'ores et déjà Carly Fiorina comme colistière. Repêchée de la course des primaires, l'ancienne dirigeante de Hewlett-Packard a déclaré « Ce n'est pas fini. Donald Trump et Hillary Clinton sont les deux faces d'une même médaille, les accusant chacun de faire partie du système. » Mais Donald Trump s'est lui aussi exprimé, Anastasie.
Effectivement, hier soir, ici à Washington, Donald Trump a prononcé un discours de politique étrangère dans lequel il a repris le slogan des isolationnistes opposés à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique d'abord, déclarant que ce thème serait le thème majeur de son administration. La partie n'est toutefois pas encore gagnée pour le favori. Il a besoin de remporter plus de la moitié des délégués restants à attribuer d'ici le 7 juin afin d'atteindre la majorité absolue de 1237.
États-Unis, toujours, le portail Internet Yahoo, qui se débat dans d'énormes difficultés, a annoncé un accord avec le fonds Starboard Value. Ce sont des investisseurs qui veulent très vite des retours sur leurs investissements. Morgan Guiriec.
Yahoo est dans la tourmente. Au premier trimestre, le groupe a enregistré une chute de 11% de son chiffre d'affaires et une perte de 99 millions de dollars. En février, le géant de l'Internet a annoncé une réduction de 15% de ses effectifs. Cette cure d'amaigrissement n'a pas suffi et un accord est conclu avec Starboard Value, qui détenait moins de 2% de son capital. L'accord prévoit l'entrée de 4 nouveaux membres au sein du conseil d'administration de Yahoo, dont Jeffrey Smith, le patron de Starboard. Le conseil est élargi à 11 membres contre 9 auparavant, car 2 administrateurs ont volontairement quitté le navire. Monsieur Smith va aussi intégrer le comité de revue qui étudie toutes les options pour sortir du gouffre, dont une vente éventuelle. La directrice générale Marissa Mayer précise que cela va permettre de se focaliser sur l'avenir du pionnier d'Internet qui a totalement raté le train du mobile.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place à la Minute Écho maintenant avec John Lyndon.
Les investissements français sont en baisse en Côte d'Ivoire. La révélation est de Pierre Gadaz, le président du MEDEF, la principale organisation patronale de France. On apprend ainsi que les parts des entreprises françaises en Côte d'Ivoire ont chuté à 10% aujourd'hui, contre 20 à 25% il y a 20 ans. Toutefois, la France reste le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Toute chose que veut renforcer le patron du MEDEF, qui conduit en ce moment une délégation de 150 chefs d'entreprise français à Abidjan. Un peu plus de 500, c'est le nombre de participants attendus à Harare au Zimbabwe du 3 au 4 mai prochain. Ce sera dans le cadre du 3e forum pour le renforcement des capacités économiques en Afrique. Il s'agira pour les participants de débattre des voies et moyens pouvant permettre aux entrepreneurs de réaliser de bonnes performances économiques sur le continent. Au Gabon, après plus de 10 ans d'activité, la société pétrolière Sterling Oil & Gas a décidé de quitter le pays. D'après le Financial Afrique, cette décision a été confirmée par la Direction générale des impôts. La Direction gabonaise des grandes entreprises dit par ailleurs avoir délivré depuis le 30 septembre 2015 à Sterling Oil le quitus fiscal lié à la fermeture de ses 2 succursales au Gabon.
C'était la Minute Écho. Merci John Lyndon. C'est le sport maintenant sur VOA Afrique avec vous, Eric Manirakiza. Alors, seconde demi-finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Oui, implacable rouleau compresseur en Espagne et en Europe. L'Atlético Madrid a continué à bousculer l'ordre établi contre le Bayern Munich. Victoire 1-0 des Colchoneros sur leur pelouse de Vicente Calderón.
Les demi-finales allées d'Europa League promettent spectacle et suspense demain.
Avec le déplacement du FC Séville, double tenant du titre au Shakhtar Donetsk et celui de Liverpool de Jürgen Klopp à Villarreal.
En Asie, la diplomatie passe par le football ?
Nous devrions rassembler tout le monde autour d'un terrain de football. Je suis prêt à aider de quelque manière que ce soit, a déclaré Gianni Infantino à la presse au cours d'un déplacement en Corée du Sud. Le nouveau président de la FIFA a fait cette annonce alors que le dernier match amical entre les deux Corées remonte à 2005 à Séoul.
La flamme olympique des Jeux de Rio de Janeiro a été officiellement remise au Brésil hier à Athènes.
À 15h45, temps universel, le président du comité olympique hellénique, Spyros Kapralos, a passé la flamme au président du comité organisateur des Jeux de Rio, Carlos Nuzman, lors d'une cérémonie au stade de marbre d'Athènes, théâtre des premiers Jeux olympiques modernes en 1896. La flamme rejoindra le 3 mai Brasilia, la capitale brésilienne, via la Suisse. Et avec toi, Nastasie, NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, et voici, les Charlotte Hornets se sont imposés face aux Miami Heat, 90 points à 88 hier. Et cette victoire est la 3e consécutive dans cette série du premier tour des playoffs de NBA. Et notons que ce match marquait le retour de l'ailier français de Charlotte, Nicolas Batum, forfait les 2 précédentes manches en raison d'une blessure à un pied. D'habitude titulaire, il est entré en cours de jeu pour inscrire 8 points en 25 minutes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudiech et passons tout de suite à nos dossiers du jour qui nous mènent tout d'abord au Tchad où l'opposant Laocane Kourayo Médard est maire de Moundou, candidat malheureux à la dernière présidentielle, dénonce une chasse aux sorcières orchestrée par le régime de N'Djamena contre son entourage. Pour les faits, Eric Manirakis a joint dans la capitale tchadienne Laocane Kourayo Médard.
Avant même les élections, la ville de Moundou a été militarisée à outrance. C'est-à-dire que la ville a été quadrillée de chars d'assaut et des armes de tout calibre. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est 3 jours avant les élections. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que aussitôt après la publication des résultats provisoires par la CENI, l'Agence nationale de sécurité, autrement dit la police politique, s'est mise à la chasse aux sorcières, enlevant, arrêtant, brutalisant nos militants. Beaucoup ont eu la vie sauve en se sauvant du côté du Cameroun. D'autres, tels que les Diondadi, les Idriss Ramadan, les Mahamad Mbodou, ont été arrêtés par cette police politique pour être torturés pendant des heures avant d'être libérés. Deux de nos militants ont été enlevés le dimanche à 100 km de Moundou, la ville économique du Tchad, et ceux-là sont portés disparus. Donc, nos militants sont en danger. La ville de Moundou également est en danger.
Il n'y a pas d'exagération. Est-ce que ce sont des faits qui sont vérifiables?
Mais exagérer pourquoi? Pour gagner quoi? On ne peut pas exagérer, on ne peut pas mentir sur la vie des individus.
Et d'après vous, pourquoi vos militants sont-ils ciblés?
Oui, mais c'est parce que dans notre ville, dans notre fief, le président sortant n'a eu que 16% de voix, alors que nous, on a eu près de 72% de voix. Et donc, c'est un règlement de compte, c'est revanche qui ne dit pas son nom.
Et vous, vous n'êtes pas inquiété personnellement?
Moi, je suis en ce moment à N'Djamena et je compte repartir à Moundou demain pour mourir avec les autres.
Et vous reconnaissez les résultats publiés?
Ah, bien sûr, tout a été charcuté, le monde entier le sait. Même le président de la République sait que ce ne sont pas les vrais résultats. Tout le monde le sait, le Tchadien lambda le sait. Donc, vous savez, c'est un coup de force, c'est un hold-up électoral. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Puisqu'il a l'armée avec lui, il a tous les moyens de répression avec lui. Qu'est-ce que vous voulez? Nous autres, à main nue, on ne peut que subir. Voilà le problème.
L'opposant Laocane Kourayo Médard au micro d'Éric Manirakiza.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le premier anniversaire de la grave crise politique et humanitaire au Burundi, déclenchée par le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza à la tête du pays. Un an après, l'espoir d'une sortie de crise est-il toujours permis? Peut-on parler d'un échec de la communauté internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Cap sur le Sahara occidental. Depuis l'expulsion en mars par Rabat de 84 membres civils de la MINURSO, les relations entre le Maroc et l'ONU ont pris une nouvelle tournure. Le Maroc propose depuis près de 10 ans un plan d'autonomie pour le Sahara occidental, tandis que les indépendantistes du Polisario, soutenus par l'Algérie, réclament un référendum d'autodétermination. Pour le professeur Mamadou Diouf, il serait indispensable de ramener la Mauritanie dans le débat. Joint par Nathalie Barge, il rappelle d'abord le poids du Front Polisario dans la crise.
Le Front a un poids important parce que le Front reste en fait l'organisation reconnue comme représentative en fait du peuple sahraoui. Et c'est cette organisation aussi qui a mené la bataille pour la décolonisation contre l'Espagne et en train de mener la bataille contre le Maroc. Le problème qui se pose, c'est que dans la recherche recherche d'une solution. Il faudrait ramener la Mauritanie dans le débat. Si vous rappelez, quand les Espagnols ont décolonisé le Sahara, les Espagnols ont en fait divisé le territoire en deux, en disons attribuant une partie au Maroc et l'autre à la Mauritanie. Mais la Mauritanie n'est pas arrivée, si vous voulez, à contrôler ce territoire. Au contraire, à cause de la proximité entre les Sahraouis et une partie de la population mauritanienne, les Sahraouis ont été à deux doigts, en fait, de prendre le pouvoir en Mauritanie même. Et le Maroc est intervenu dans ce débat et a occupé l'ensemble du territoire pour éviter une Mauritanie élargie qui pèserait sur le Maroc qui s'est attribué une partie du Sahara. Donc le problème, vu la proximité entre la population sahraouie, proximité ethnique, si vous voulez, et la population mauritanienne, il serait indispensable de ramener la Mauritanie dans le débat.
L'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahara occidental a déclaré qu'une étincelle pouvait provoquer un feu de forêt. Y a-t-il un tel risque actuellement ?
Objectivement, le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est un soutien encore plus affirmé de l'Algérie au front Polisario et une décision politique prise par l'Algérie de créer une situation encore plus difficile. Le problème qui se pose, c'est que les données ont tellement changé dans cette région, en particulier à propos de l'émergence, ce qu'on appelle les islamistes, ce qu'on appelle les terroristes dans cette région du Sahel, qui est une région qui s'est considérablement transformée ces 15 dernières années. Et le fait que l'Algérie, après être passée de crise en crise durant ce qu'on appelle la décennie noire, les années 90, je ne pense pas que vraiment l'Algérie est aujourd'hui en position d'une confrontation directe ou indirecte avec le Maroc, d'une part, et d'autre part, je ne pense pas, avec la crise libyenne aujourd'hui et ses conséquences sur l'ensemble de cette région au nord et au sud du Sahara, que les puissances occidentales soient prêtes à créer un autre front de conflit.
L'historien Mamadou Diouf, directeur de l'Institut d'études africaines à l'Université Columbia de New York. Le délestage d'électricité est devenu monnaie courante au Mali, dans les villes principales comme secondaires. La société chargée de la gestion d'électricité dit que le phénomène est dû à deux problèmes majeurs. Le premier est l'état des équipements de la société qui ne supporte plus la chaleur. Et le second s'appelle déficit d'électricité. Kassim Traoré nous en dit plus dans ce reportage.
En cette période de grande chaleur, les populations ne savent quoi faire, comme cet habitant de Daoudabougou.
Moi, je suis Salif Bengali. Le délestage est devenu un problème crucial à Bamako. On appelle ça un délestage sauvage.
Sans électricité, rien ne marche à Bamako. Pas d'eau fraîche, pas de poissons frais, et il y a trop de difficultés chez les tailleurs, les frigoristes, les menuisiers et autres réparateurs. Dans les salles de classe, la situation devient très tendue.
Karim Demia, je suis le directeur du lycée technique Gerson Dambéli. Nous sommes actuellement très éprouvés vraiment par ces délestages. Imaginez-vous, nous sommes avec les enfants, des fois on n'a pas d'eau et tous les travaux c'est sur la base de l'électricité, c'est vraiment désagréable. Nous sommes très inquiets par rapport à la situation parce que nous sommes en danger.
Tchona Machekone, directeur de la communication de la société Énergie du Mali.
Il y a une fréquence de coupures d'électricité actuellement. Cela est dû à deux facteurs. Le facteur de la grande chaleur qui éprouve les machines, parce qu'il faut rappeler que nous sommes encore à 60% de production d'électricité par le thermique, c'est-à-dire par des groupes électrogènes qui ont un moment de maintenance, un moment de révision, toute chose qui fait que vous êtes obligé de les arrêter pour au moins changer des filtres, l'huile, etc., etc.
Le second problème à EDM, ça s'appelle déficit, car il y a plus de demandes d'électricité que de courant disponible.
Déficit dans la mesure où l'offre est inférieure à la forte demande, au moment où même où tout le monde a besoin d'électricité. Mais vous êtes obligé de procéder par des coupures plus ou moins longues. On s'en excuse.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Comme la plupart des villes en Afrique, la ville de Bafoussam au Cameroun fait également face à des problèmes d'électricité. Les délestages se multiplient et les habitants essaient de trouver, chacun à son niveau, des solutions appropriées. Pour en parler, Emmanuel Nzété, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, s'est confié à VOA Afrique. On l'écoute tout de suite au micro de John Lyndon.
Le problème d'eau se pose à Bafoussam, mais pas plus que les autres villes. En matière d'électricité, nous subissons le délestage, comme toutes les autres villes du Cameroun, parce que la demande dépasse l'offre. À Bafoussam, nous en avons suffisamment de l'eau. Mais le problème, c'est que quand il n'y a plus d'électricité ou de courant, le fournisseur se trouve dans l'impossibilité de refouler l'eau dans les citernes. Et pendant ce temps, qu'il n'y a pas d'électricité, on n'a pas l'eau. S'il y avait suffisamment de l'électricité, le problème d'eau ne devait pas se poser à Bafoussam. Pour ceux qui sont connectés au tuyau de distribution d'eau potable.
Alors comment vous faites donc pour résoudre ce problème d'électricité et de délestage?
Les plus nantis, chacun a un groupe. C'est la seule façon de s'en sortir. Et puis heureusement, comme vous savez, les Chinois ont apporté des lampes solaires. Quand l'électricité est partie, chacun allume sa lampe ou bien chacun démarre son groupe électrogène. C'est la seule façon de contourner cette difficulté.
Alors, est-ce que vous avez l'appui des partenaires, peut-être privés ou du gouvernement, pour endiguer ce problème d'électricité dans votre ville?
Bien sûr, nous avons l'appui du gouvernement, parce que la société de distribution de l'électricité au Cameroun est une société d'État, une société dans laquelle l'État a des actions, parce que la conduite de l'énergie coûte assez cher pour construire les lignes. Et il n'y a que l'État pour nous aider à le faire. Aucune commune n'est capable au Cameroun de construire une ligne électrique, même de moins de 2 km, parce que ça coûte cher.
Alors, au-delà de l'électricité, est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels votre ville fait face et que vous essayez de relever?
Les difficultés auxquelles nous faisons face sont nombreuses. La crise économique est passée par chez nous et puis ça a affaibli le niveau de vie de la plupart des Camerounais.
Le témoignage d'Emmanuel Nzété, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. La République démocratique du Congo et le Rwanda prêts pour une exploitation commune du gaz méthane. Conscients de la valeur du méthane dont regorge le lac Kivu, situé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que du danger qui se rattache à sa non-exploitation. Les deux pays viennent de mettre en place un comité chargé de la surveillance pour une exploitation commune et sécurisée du gaz méthane afin de produire de l'électricité. Le gaz extrait servira à couvrir les besoins domestiques en gaz des habitants de part et d'autre du lac. Une part sera par ailleurs destinée à la production d'électricité. Le Rwanda ayant déjà installé un dispositif destiné à cette fin. On écoute tout de suite Charlie Kasareka.
Les experts de deux pays installés aujourd'hui seront chargés de faire le monitoring pour une exploitation sécurisée du gaz méthane dans ces lacs partagés entre le Rwanda et la RDC. Pour les ministres congolais des hydrocarbures, M. Ngoyi Mukena, l'exploitation du gaz pour la RDC n'est qu'une question de jours maintenant.
Comptez sur le gouvernement de la République qui réunit maintenant les paramètres nécessaires pour emboîter le pas aux voisins d'en face. Comme vous le savez, ce gaz méthane doit être extrait de façon professionnelle pour produire de l'électricité afin de pallier au déficit énergétique de la sous-région. Nos voisins d'en face ont déjà fait le pas.
Côté rwandais qui exploite et utilise depuis plusieurs mois ces gaz dans des ménages, sa déléguée estime que cette collaboration va encore renforcer et produire des bons résultats pour les deux nations.
Vous comprenez alors que ce comité doit être assez fort pour servir de fondation d'une grande et longue initiative.
La société civile du Nord Kivu, quant à elle, pense que ce projet va vite contribuer à la conservation de la faune dans les parcs de Virunga et ses environs où les fabricants de charbon de bois menacent cet environnement. Thomas Dake Mouiti est le responsable de cette structure ici en province.
Mettons le gaz dans les outils pour que ce gaz serve comme alternative dans les ménages, ce qui contribue significativement à la réduction de l'utilisation du bois du parc.
Sur ces 2370 km², les experts congolais et rwandais redoutent les effets de la forte concentration en gaz dans les jours à venir, d'où la surveillance de ces gaz dans les lacs Kivu reste une préoccupation très importante pour la sécurité des deux nations. Le lac Kivu est l'un des trois lacs au monde, avec les lacs Nyos et les lacs Monine au Cameroun, qui renferment des fortes concentrations en gaz. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
C'était Le Monde aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, console Zuber Altayeb. Je suis Anastasie Tudiech. Très bonne journée.